Micro-Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro-Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio Micro-Rebelle. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur notre site micro-rebelle.fr ou depuis l'appli de la Franf. Au sommaire de ce magazine, comme chaque vendredi, agenda social-culturel, actualité, revue de presse et des reportages, ainsi que de la musique libre. Et puis je vous rappelle également que ce magazine est rediffusé chaque vendredi par nos amis de Radio PFM 99.9 dans la Rajoie et en DAB+, chaque vendredi donc à 20h, chaque samedi à 7h30 et tous les dimanches à 14h. Je ne suis pas tout seul autour de la table, à la technique il y a Luc.
Bonjour. Salut Luc. Salut à toutes et à tous, salut Lucien.
Et Aurélie.
Bonjour.
Eh bien, je vous propose sans attendre de démarrer par notre agenda social et culturel. C'est Luc et Aurélie qui sont aux manettes.
Alors, dans l'agenda de cette semaine, on commence avec le samedi 17 octobre. On se retrouve avec notre assiette pour demain, des collectifs d'acteurs locaux, donc Confédération Paysanne, Attaque, Collectif Anti-OGM, Greenpeace, Extinction Rebelle, etc., organisent des événements dans le cadre de la mobilisation nationale « Notre assiette pour demain ». Pourquoi se mobiliser ? L'objectif principal de la mobilisation est d'influencer la prochaine politique agricole commune qui est actuellement négociée au niveau européen par les différents États membres. À l'échelle nationale, la déclinaison de la PAC est constituée du plan stratégique national PSN, texte lui aussi en négociation jusqu'en 2021. La première version de celui-ci devrait être présentée en janvier par le gouvernement. Donc les marches se tiendront à 10h30 place Charles-Valentin à Dunkerque, à 14h place de la République à Lille et à 14h aussi au kiosque des Champs-Élysées à Saint-Quentin. Et donc ça se passe le samedi 17 octobre.
Samedi 17 octobre, également, marche des solidarités. Depuis plusieurs semaines, des travailleurs et travailleuses sans papiers et des soutiens sont partis de Marseille, Montpellier, Lyon ou encore Lille. Un reportage sur les marcheuses et marcheurs de Lille est d'ailleurs disponible sur Micro Rebelle. On les avait interviewés lors de leur passage à Grenay. Leurs revendications, la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention administrative, les CRA ou CRA, des logements dignes et un accès à la santé. Toutes ces marches convergent le 17 octobre à Paris pour une manifestation à 14h place de la République. Le collectif des sans-papiers du Nord, le CSP 59, organise à cette occasion un bus pour se rendre à Paris et participer à cette manifestation. Le rendez-vous est à 9h45, samedi 17 octobre, sur le parking de la mairie de Lille, porte de Paris. Il faut réserver une place dans le bus. Vous pouvez le faire au 06 09 81 31 12. 06 09 81 31 12.
Le samedi 17 octobre, toujours, aura lieu la journée mondiale du refus de la misère. Donc le collectif Refuser la misère, qui rassemble des organisations diverses, organise la journée mondiale du refus de la misère chaque 17 octobre. Né de l'initiative de Joseph Wyszynski, fondateur d'ATD, Car Monde, et de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblés sur le parvis des droits de l'homme à Paris en 1987. Cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. La journée mondiale du refus de la misère donne la parole aux personnes directement concernées par la pauvreté sur les conditions indignes qu'elles vivent, sur leur résistance quotidienne et leurs aspirations. Cette journée est également l'occasion de rappeler que la misère est une violation des droits humains et qu'elle n'est pas une fatalité. Malheureusement, on n'a pas repéré beaucoup d'initiatives en région, ce 17 octobre, signalons quand même un rassemblement public au cimetière sud de Lille à 9h30, ce samedi 17 octobre. Une autre place de la médiathèque à Roubaix à 11h, un troisième à Boulogne-sur-Mer, place Gustave Charpentier à 14h30, ainsi qu'une initiative des élèves du lycée professionnel Hélène Boucher de Somain à 11h.
Lundi 19 octobre, comment je suis devenu anarchiste ? Une rencontre avec Isabelle Attard à propos de son livre qui s'intitule « Comment je suis devenu anarchiste ?» paru aux éditions du Seuil, est organisée au Bateau Livre, une librairie qui se trouve à Lille au 154 rue Léon Gambetta, et c'est à 18h30. Isabelle Attard est docteure en archéozoologie et directrice de musée. Elle a longtemps vécu en Suède. Revenue en France, elle a été députée écologiste entre 2012 et 2017. L'occasion de prendre des positions fortes, notamment contre l'état d'urgence. Chemin faisant, Isabelle Attard a découvert l'anarchisme, un idéal politique dans lequel elle s'est pleinement reconnue. L'entrée est gratuite, mais sur réservation, ça se fait par mail, lebateaulivrelille@gmail.com.
Le jeudi 22 octobre, on se retrouve pour la réunion mensuelle des objecteurs et objectrices de Croissance 62, de 19h à 20h30 au LAG, à Liévin, 23 avenue Jean Jaurès, et vous êtes tous les bienvenus.
Samedi 24 octobre, foire aux installs proposée par CLIS 21 au LAG, 23 avenue Jean Jaurès, à Liévin, de 14h à 17h. La foire aux installs, c'est une bonne occasion pour libérer et se réapproprier son ordinateur en installant par exemple Debian, une distribution GNU Linux. Le principe est maintenant bien rodé, vous venez avec votre tour ou votre ordinateur portable et les personnes de CLIS 21 vous aident durant toutes les phases de l'installation et de configuration de votre ordinateur. C'est aussi l'occasion de découvrir les logiciels libres, que ce soit pour trouver une réponse à vos questions qui ne vous ont pas encore fait franchir le pas, par curiosité ou pour encore en discuter, n'hésitez pas à franchir la porte. Au-delà du logiciel, ce temps est également propice pour discuter des usages de l'outil informatique, d'Internet et de tous les services qu'on peut trouver sur le web. La foire aux installs débute par une présentation thématique, donc essayez d'être à l'heure. C'est le 24 octobre au LAG, 14h à 17h.
Le samedi 24 octobre, on se retrouve cette fois-ci pour la projection du film « L'être âgé ». C'est un film documentaire sur la pensée d'André Gorge et questionnant la place de la technologie dans nos vies. Ce contenu est proposé par CLIS 21 en présence d'un des réalisateurs du film, de 19h à 23h au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Samedi 24 octobre, toujours libéré Georges Abdallah. Ce samedi 24, Georges Ibrahim Abdallah entamera sa 37e année de détention en France. C'est un militant politique communiste libanais qui s'est opposé à la politique israélienne et qui a été condamné à la prison à perpétuité sans aucune charge sérieuse contre lui. Ce samedi 24, comme chaque année depuis 10 ans, des manifestations sont organisées devant la prison où est enfermé Georges Ibrahim Abdallah à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées.
Enfin, vous pouvez noter dès à présent dans votre agenda que le samedi 31 octobre, on se retrouve pour l'Assemblée Générale Ouverte de Micro-Rebelle. Donc chaque dernier samedi du mois, Micro-Rebelle propose à ses adhérents et adhérentes, ainsi qu'à ses auditeurs et auditrices, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par Micro-Rebelle, mais aussi autour de la vie et des projets de l'association. La thématique de ce samedi 31 octobre sera « Quel programme et via quel support Micro-Rebelle doit-elle proposer ?» Pour d'autres informations sur le contenu de cette Assemblée Générale Ouverte, vous pouvez dès à présent aller voir sur le site internet de Micro-Rebelle. Attention, en raison de l'occupation de la Maison des Jeunes Buissons, cette Assemblée Générale de Micro-Rebelle aura lieu au LAG, toujours 23 avenue Jean Jaurès à Liévin.
Eh bien, on poursuit ce Micro-Rebelle Hebdo par notre temps d'actualité et de revue de presse que je vais vous présenter avec Aurélie d'ailleurs. Et donc dans l'actualité cette semaine, il y a un mot qui est revenu souvent. Alors je vais faire un petit sondage auprès de mes collègues Aurélie et Luc. Quel est le mot clé qui est ressorti le plus souvent cette semaine dans l'actualité ? Aurélie.
J'aurais dit couvre-feu ou Covid, hein, comme d'habitude.
J'aurais dit couvre-feu aussi.
Eh bien, vous avez tous les deux gagné, effectivement. C'est le mot couvre-feu.
Un qui... t-shirt micro-rebelle pour chacun.
Voilà, vous y avez droit. Il faudra qu'on les commande, d'ailleurs. Donc, effectivement, dans l'actualité, chacun a pu constater, c'est le mot couvre-feu qui est revenu de manière assez lancinante. La Voix du Nord peut ainsi titrer « Covid-19, Emmanuel Macron place les métropoles sous l'été noir ». en décidant, poursuit la Voix du Nord, en décidant d'un couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles, dont Lille, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de sacrifier la vie sociale et culturelle de près d'un tiers de la population pour au moins 4 semaines, avec l'espoir de reprendre le contrôle de l'épidémie. Fin de citation de ce premier article. Il est vrai que la situation sanitaire en France est problématique. Le niveau de l'épidémie remonte rapidement et déjà les hôpitaux s'apprêtent à être saturés. Toujours dans la Voix du Nord, le même jour, 2 autres articles. Alors le premier article en titre « Dans les hôpitaux, on se prépare à gérer cette fois le Covid-19 en plus du quotidien ». Et l'article poursuit « La recrudescence de l'épidémie se fait déjà bien sentir dans certains hôpitaux de la région où on se réorganise d'une façon bien différente de celle du printemps pour gérer un double flux, celui des patients classiques d'un côté et celui des patients Covid-19 de l'autre ». Et un deuxième article donc, en titre « Immersion dans une unité Covid-19, c'est bien plus dur qu'en mars ». Et dans l'article « Alors que le gouvernement a annoncé lundi une deuxième vague forte de l'épidémie, l'unité Covid-19 vient de rouvrir ses portes au centre hospitalier de Béthune-Bruay qui accueille 36 patients positifs. Les soignants, mobilisés aujourd'hui jeudi lors d'une journée d'action, restent déterminés ». Fin de citation. Alors il faut évidemment revenir sur ce qu'évoque la Voix du Nord, je cite à nouveau « Emmanuel Macron a décidé de sacrifier la vie sociale et culturelle de près d'un tiers de la population » pour au moins 4 semaines, c'est donc dans la Voix du Nord. Et donc ce sont nos interactions sociales qui sont visées. Les rencontres privées seraient le principal lieu de contamination. Or, selon les chiffres de Santé publique France, les principaux clusters sont les entreprises et les établissements scolaires, sans compter les transports en commun où les travailleurs et travailleuses s'entassent pour aller au boulot. Alors en pratique, les ateliers et les bureaux sont en effet souvent très mal ventilés. Quant aux salles de classe, elles sont souvent trop petites au regard du nombre d'élèves et de personnel enseignant ou autres qui s'y entassent. Ainsi, ce couvre-feu s'inscrit dans des décisions qui nuiront le moins à la bonne marche de l'économie. Il faut aller travailler. Il faut que l'école accueille les enfants pour que les parents aillent bosser. Dit autrement, les mesures annoncées par Emmanuel Macron visent à préserver les profits des entreprises. Emmanuel Macron se pose en relais du patronat et propose de limiter notre vie sociale avec un couvre-feu qui risque bien d'être inefficace. C'est une mesure absurde qui ne sert qu'à donner l'impression d'une action forte pour un gouvernement largement critiqué pour sa mauvaise gestion de l'épidémie au printemps dernier. Le tout en permettant au patronat de continuer l'activité économique en envoyant les travailleuses et travailleurs au boulot pour engranger des profits. Le Covid, ou la Covid, cristallise ce qu'est notre système économique. À son stade de développement, le capitalisme engendre la mort. La mort biologique tout d'abord, avec les pandémies, les pollutions, le dérèglement climatique. La mort sociale ensuite, avec le confinement, le couvre-feu, la suspension des libertés. La mort psychique enfin, pour celles et ceux qui ne supportent pas ces épreuves. Alors, il faut faire entendre d'autres voix. On pourrait toujours rester dans les généralités et dire qu'il faut abattre le capitalisme. On ne se contentera pas de ça. Tout d'abord, on rappellera que de nombreux épidémiologistes s'efforcent de faire passer comme message la seule stratégie efficace de lutte contre la diffusion du Covid passe par un dépistage massif au sein de la population, puis par l'isolement des seules personnes infectées. Encore faut-il disposer du matériel, du personnel et des infrastructures appropriées à un dépistage massif. Et encore faut-il pouvoir isoler les personnes infectées en prenant en charge toutes les réalités que cela recouvre, par exemple concernant des familles entassées dans des logements exigus. Et puis il faut recruter dans la santé et augmenter les salaires et les moyens des soignantes et soignants. Il faut utiliser les profits gigantesques réalisés par les grands groupes pour financer le ralentissement ou l'arrêt de l'activité des entreprises afin de limiter les foyers de contamination sur les lieux de travail et dans les transports. Et puis, pour ce qui nous concerne, et à rebours de tout couvre-feu, il nous faut consolider nos liens, renforcer nos outils de lutte, de résistance et de solidarité. Il nous faut organiser une riposte d'ampleur à la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron et de la classe capitaliste. Eh bien, je tends mon micro à Aurélie.
Merci Lucien. Donc, dans Politis cette semaine, un article sur l'université m'a interpellée. Donc, la situation des universités n'est inconnue pour personne. Et vous le savez sans doute toutes et tous, depuis peu, les universités sont passées à 50% de leur effectif total en présentiel sur les campus. Donc, les difficultés que rencontrent les universités ne sont pas... c'est pas nouveau, en fait, loin de là. Et selon l'analyse de Politis, aucun effort réel n'a été fourni pour mettre en place des mesures d'hygiène viables. Pourtant, bon, moi, je suis étudiante sur le campus Pont-de-Bois et je suis en L3 d'histoire et je peux vous assurer que les efforts et surtout la volonté, en fait, finalement, sont là. Donc, on a du gel hydroalcoolique à disposition, les locaux sont régulièrement désinfectés, on a même des produits pour désinfecter nous-mêmes, pour vous dire. Donc, tout est mis en place pour prévenir la sécurité des étudiants sur le campus. À mon sens, l'administration n'est pas à blâmer, enfin pas comme on le dit dans l'article de Politis. Des ordinateurs sont mis à disposition en prêt pour les étudiants qui ne sont pas équipés et le système de cours à distance, étonnamment, il fonctionne plutôt bien et plutôt viable malgré les quelques bugs hein, parce que les professeurs ne sont pas forcément formés pour faire des cours à distance et les cours en présentiel sont respectés par les étudiants et les professeurs et globalement, il en reste que tout dépend du comportement de chacun. On pourrait sans doute faire mieux, je ne le dis pas. Et les mesures d'hygiène pourraient être d'autant plus efficaces si certains gestes se devenaient systématiques, comme par exemple le lavage des mains quand on arrive dans les classes. Encore est-il, si on avait à disposition du gel hydroalcoolique dans toutes les salles, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Et la désinfection des tables en rentrant, qu'on devrait tous faire nous-mêmes, hein, parce que je pense que... on est assez grand pour le faire. Même si on perdrait tout de même quelques minutes à le faire. Cette situation n'est facile pour aucun étudiant, mais aussi aucun enseignant qui font un réel effort concrètement pour essayer de comprendre les outils informatiques avec lesquels ils ne sont pas toujours à l'aise, avec lesquels ils ont du mal à travailler puisque c'est pas toujours aux normes et voilà. Pourtant, on pourrait espérer tout de même une petite aide de l'État pour rendre peut-être ce système encore plus fonctionnel, et peut-être aussi à l'avenir essayer de garder des effectifs de groupes, de classes qui ne dépassent pas 15 élèves pour favoriser l'apprentissage notamment parce que c'est pas très normal d'être à 45 dans une petite salle et je pense que le Covid nous fait aussi réaliser que on devrait pouvoir apprendre correctement avec un effectif qui reste correct. Voilà.
Merci Aurélie. On va faire une petite pause musicale. Ça s'intitule Bal Karabik Chicken, je n'ai pas bégayé et c'est par le groupe Quantum Jazz. Thank you.
web radio indépendante de Bassamini, Micro Rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Micro Rebelle Hebdo, on continue sur microrebelle.fr et sur Radio PFM 99.9 et en DAB+. Premier reportage, un reportage tout chaud. On était hier soir au lycée Henri Darras qui organisait une rencontre. Le lycée est sous pression, c'est un reportage d'Elsa.
Jeudi 15 octobre, une trentaine de professeurs, élèves et parents d'élèves étaient réunis devant leur lycée Henri Darras à Liévin. Ils et elles ont fait part à la presse de leur ras-le-bol des conditions matérielles et humaines subies depuis plusieurs années et aggravées avec la crise sanitaire. Des témoignages qui expriment leurs conditions d'enseignement et d'apprentissage dans des locaux vétustes avec l'inquiétude quotidienne d'attraper le coronavirus.
C'est les conditions sanitaires dès la pré-rentrée. On n'avait pas de gel hydroalcoolique. Si vous entrez dans le lycée, il y a un distributeur à pédales, ouais. C'est tout ce qu'il y a. Ah ouais, après on trouve des petits bidons ici ou là. Il paraît qu'il y en a en stock, qu'on en a reçu en stock, mais il faut les demander, etc. Il paraît-il que le stock de gel hydroalcoolique qui avait été acheté après le confinement a été volé pendant les vacances. Il y a une version officielle qui dit ça. On n'a pas d'explication précise. Alors, on a eu des petits flacons individuels qui ont été donnés, mais bien après, 3 semaines après.
Les flacons donnés aux enseignants ne sont pas aux normes. C'est-à-dire que c'est un gel, où il n'y a pas assez d'alcool dans ce gel pour être bactéricide, etc. Voilà, c'est un gel qui est là pour faire beau. Voilà, tout à fait.
De toute façon, nous, ça a repris ici le 12 mai, il n'y avait rien. Il y a des lycées où il y avait quelque chose, mais ici, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel. Personne n'avait rien commandé. Ce sont les infirmières, par exemple, qui ont dû elles-mêmes aller faire des démarches dans les pharmacies pour avoir des masques. Évidemment, les pharmacies, à l'époque, c'était un paquet par personne. Elles ont dû négocier parce que je viens pour le lycée. Ce n'est pas leur boulot d'infirmière. Ce n'est pas le boulot des infirmières d'aller acheter des masques. Mais c'est elles qui ont dû le faire, finalement.
Donc, il n'y a pas de masque. Les classes, on a 35 élèves, comme d'habitude, dans des classes de 40 mètres carrés. La distanciation sociale, c'est complètement bidon. Les points d'eau, c'est de l'eau froide. Les gamins, ils se lavent les mains à l'eau froide. Il n'y a pas de point d'eau à la cantine avant de passer à table. Il y a 10 gamins qui sont sur une table la journée. La table, elle n'est pas nettoyée. Les élèves, ils passent les uns à la suite des autres.
De toute façon, avec la réforme du lycée, les spécialités sont mélangées sur toutes les classes. Il est impossible de laisser les gamins dans la même classe toute la journée.
Ce qu'il aurait fallu, c'est que le ministre il renonce, par exemple, à sa réforme du lycée, parce qu'effectivement, là, on aurait pu faire des systèmes comme ça. Mais le minimum des règles sanitaires, il n'est pas respecté. Hier, Macron, il a annoncé un durcissement des règles sanitaires. On va fermer à 21h. Partout, on durcit. Mais ici, nous, ça assouplit tout le temps. Même la définition d'un cluster, elle était assouplie. Maintenant, quand il y a 3 gamins malades dans une classe, on ne ferme pas la classe, c'est plus un cluster. Il faut que les gamins ils soient testés positifs et qu'ils soient symptomatiques pour que la classe elle, soit fermée. Là, dans le lycée, il y a des classes où il y a 3 gamins malades et les classes elles sont pas fermées. Et il n'y a pas d'information.
Un exemple concret, j'avais ma classe de terminale, c'est eux qui m'ont appris qu'il y avait 2 cas positifs dans la classe, qu'après il y en avait un troisième, qu'il y avait 5 élèves qui étaient symptomatiques, qui étaient absents en attente de test. Moi j'avais toute la classe, voilà, on était tous là avec des fenêtres qui s'ouvrent environ 10 cm. Ils sont tous partis, ils avaient tous un peu la trouille justement par rapport à être cas contact, etc. Donc l'ambiance est un peu compliquée. Juste après je reçois une classe de 24 élèves de seconde. Bah, je me suis déplacée pour aller chercher du gel, pour nettoyer les tables, etc. Parce qu'aucun élève voulait rentrer dans cette classe où déjà c'était un mini cluster. Donc les élèves ne veulent plus. Enfin, c'est hallucinant.
Là, on parle des restaurants. Enfin, il suffit de regarder les chiffres. Hein. Les clusters qui sont investigués, un tiers, ils le sont dans les collèges et les lycées. Un tiers. Hein. Voilà. On a chez les enseignants, c'est les chiffres du rectorat. Hein. Il y a à peu près 3 fois plus de malades cette semaine que la même semaine l'année dernière. Voilà. Ça, c'est des chiffres. Hein. C'est les chiffres du rectorat. Hein. Vous pouvez les trouver facilement. Voilà. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors bien sûr, nous, on râle contre notre direction parce que elle est barricadée dans ses bureaux. Elle veut rien voir, rien entendre. La direction, hein, on peut aller la voir. Hein, Voilà, mais c'est à nous d'aller la voir. On a un collègue qui supporte pas le masque, qui est en arrêt, etc., qui a un mot de son médecin, qui a eu des problèmes cardiaques, etc. Il envoie un mail, il n'a pas de réponse. C'est lui qui a dû venir pour s'expliquer. Et le proviseur, il lui a dit « Ah oui, oui, bien, je prends note, je vais voir avec le rectorat ce que je peux faire. » Mais de toute façon, dans l'éducation nationale, ça ne fonctionne que comme ça. On a des chefs qui se bouchent les oreilles. Mais c'est le cas ici, mais c'est le cas tout en haut, c'est le cas de Blanquer. Ils se bouchent les oreilles. C'est des gens, ils veulent pas voir la réalité. Ils veulent pas voir ce qui se passe sur le terrain.
Parce qu'on a aussi oublié de parler des problèmes de violence, de dégradation, d'incivilité qui deviennent de plus en plus graves même. Des toilettes salies avec des excréments, les femmes de ménage, on leur dit simplement de nettoyer.
Des élèves du lycée. Et avec une femme de ménage qui a dû nettoyer et qui était en pleurs. Voilà. Et est-ce que quelqu'un est venu la voir de la direction ? Même pas.
Des problèmes de violence envers certains professeurs. Et tout ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de sanctions brutales tout de suite. Il faut qu'il y ait une progression dans nos sanctions. Donc on fait des rapports et patati. On attend certainement qu'il y ait un mort pour que, peut-être enfin, on réagisse. Enfin, qu'ils réagissent, quoi. Mais on ne va pas attendre à ce point-là, quoi. Donc ça devient de plus en plus tendu. Et la goutte d'eau de ce week-end a fait que tous les collègues commencent à bouger en fait.
Les bâtiments dans lesquels on travaille, ça devient urgent de faire quelque chose parce que pour nous c'est désagréable, mais pour les élèves c'est quand même vraiment insultant de leur demander de travailler dans des salles de cours où il manque des dalles au plafond, où il y a de la moisissure, où il y a des fenêtres qui fuient avec de l'eau par terre, on a des chaises du mobilier qui est vétuste ou cassée, des ordinateurs qui mettent en général 5-6 minutes à s'allumer, avec des logiciels qui ne marchent pas. On leur demande de faire comme si tout allait bien et de compenser les défaillances de la région, en fait. Là, il y a eu des relevés de température qui ont été faits dans certaines salles. Il y a une collègue qui a relevé plus de 27 degrés dans sa salle. On demande aux élèves de travailler comme si de rien n'était. C'est pas... Il y a certaines salles où, au contraire, on se gèle. Donc, suivant les salles dans lesquelles on est, soit il fait 12 degrés, soit il fait 30, et puis il faut qu'on s'adapte. Et les élèves aussi qui changent de salle à chaque heure de cours.
On a des salles, on y a cours chaque heure, on change de salle chaque heure, ou en tout cas presque chaque heure avec la réforme notamment. Et les salles sont désinfectées au soir. C'est une priorité pour les femmes de ménage qui s'assurent elles aussi de faire ça bien en plus de ce qu'on leur demande de faire, notamment dans les toilettes. Et à la fin, on se retrouve avec 8 classes qui sont passées sur les mêmes tables, qui n'ont pas été désinfectées, pas lavées. Et même si on nous dit qu'elles sont désinfectées le soir, il y a quand même des risques. Des élèves qui ne se sentent pas bien juste avant. On a déjà eu des cas où la table était condamnée parce que le professeur nous disait que l'élève se sentait pas bien et pour pas risquer quelque chose, toute une partie de la salle était condamnée pour dire d'éviter quoi que ce soit. Mais sur 8 heures, on a 8 classes différentes et ça fait énormément d'élèves. Et le souci, c'est que ce manque de gel hydroalcoolique, je prends l'exemple du collège à côté, il y a plusieurs distributeurs dans les couloirs. Ici, il n'y en a pas un seul.
Donc ça commence à être très aberrant, c'est incroyable. Demain, je ne sais pas les réponses que je vais avoir, j'ai le directeur demain au téléphone à 14h. Je ne sais pas quelle réponse, mais apparemment, j'ai posé la question pour le gel hydro, il n'y en a pas. Je ne sais pas, il y a un budget qui est alloué à la base, je pense dans tout lycée, comme dans tout... où il est-il ce budget ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? On se demande, que fait la direction ?
Vous êtes parent d'élève ?
Parent d'élève.
Et alors vous, en tant que parent, qu'est-ce qui est possible de faire ? Comment ça se passe ? Quelle est la réponse ?
Je vais voir avec d'autres parents d'élèves. Je crois que je vais faire remonter au niveau de vos parents, que les parents se contactent mutuellement, voir après avec votre truc de classe, là, pour voir un peu ce que l'on peut faire, parce que c'est inadmissible.
On est partagé entre l'envie de réussir, d'avoir notre bac, pouvoir faire des études après, et on a peur pour notre santé, pour la santé de nos proches. Enfin, c'est compliqué d'être... On est un peu au milieu et on ne sait plus trop quoi faire.
On est carrément mitigé, parce qu'ils nous foutent la pression. Oui, il y a le bac, vous ne pouvez pas rater une heure de cours. Puis à côté, il y a le Covid, on est là. Si on met notre famille en danger...
Donc c'est pareil, ma fille vient au lycée. Enfin, moi, je parle en tant que notre cas, nous. Elle vient au lycée. Elle est cas à risque, je suis cas à risque. Et à la maison, on s'occupe de la mamie qui a 85 ans. Donc tous les jours, elle vient avec la peur au ventre de refiler à sa mamie le Covid.
Justement, la direction, en fait, elle ne nous dit rien. Donc, même les professeurs eux-mêmes, ils savent pas quand il y a un cas dans notre propre classe. Même entre nous, en fait, l'autre jour, en fait, j'ai appris que machin elle avait le Covid, elle est positive. Et on est tous choqués, on est là et on se dit, putain, c'est vrai, genre, je suis restée avec elle, il n'y a même pas deux jours. Et puis on est là en mode, peut-être que je l'ai.
Parce que normalement, quand il y a un cas positif, au niveau justement de l'agence régionale de santé, on est censé prévenir toutes les personnes qui ont été en contact avec ces personnes-là.
En fait, l'ARS est débordée, donc c'est l'établissement qui fait. Qui est censé faire.
Donc l'établissement, c'est de l'omerta en fait.
Il n'y a pas que de l'omerta, il y a aussi beaucoup d'élèves et de familles qui ne préviennent pas l'établissement, mais de fait le traçage n'est pas fait.
Oui, donc voilà. Le traçage n'est pas fait.
Donc officiellement on est à 17, depuis le début de l'année on serait à 17 malades, hein, officiellement. Maintenant, voilà, on sait tous qu'il y a bien plus que 17 malades. Hein.
Vous êtes en terminale, donc ça veut dire que ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes dans cet établissement-là. Là, vous nous parlez des problèmes liés au Covid. Est-ce que, en plus de cet aspect-là, vous voyez des différences dans vos conditions d'études par rapport aux années précédentes ?
Ça fait 3 ans que c'est compliqué déjà. Que ce soit l'année dernière ou même en seconde, il y a toujours eu des gens qui cassent les murs, le plafond, ils enlèvent les dalles. L'année dernière, les alarmes incendies, elles étaient allumées au moins 2 fois par semaine. C'était catastrophique. Les toilettes des filles du bâtiment J, ça fait 3 ans, il y a de l'eau par terre et il y a du sang sur les murs. Il y a, sur 6 toilettes, il y en a 3 bouchées et 5 qui n'ont pas de verrou. Donc... ça fait 3 ans que c'est comme ça et il n'y a rien qui change.
Il y a des toilettes toujours fermées parce qu'il y a toujours des dégradations à l'intérieur, donc ils ne peuvent pas les ouvrir. Donc du coup, on doit traverser toute la cour. On est en retard à nos cours exprès pour aller aux toilettes. Enfin, je veux dire, si on a cours à l'autre moitié du bâtiment et qu'on doit aller aux toilettes à la poste, on est obligé de se déplacer, de marcher 5 minutes, on est en retard. C'est de notre faute.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quoi faire par la suite, peut-être encore ensemble ou...
On va essayer de se regrouper, de faire en sorte que on fait une pétition globale et chaque délégué essaiera de faire signer un maximum d'élèves de sa classe.
Faut juste qu'on se rend compte
une pétition, mais il faut
les idées
parce qu'on est quand même nombreux aussi.
On va pas écrire sur une feuille des choses, des idées en bas comme ça, faut qu'on se concentre ensemble. On se met d'accord sur les mêmes idées.
Et puis réunir tout le monde, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de classes, beaucoup
puis
de délégués.
Tout le monde ne se sentira pas concerné.
Mais voilà les problèmes. Alors, c'est pas. Il y a le Covid, hein. Mais le Covid, c'est un truc en plus. Là, on est en train de crever partout. Et puis, de toute façon, en haut, ils ont décidé de foutre en l'air l'éducation nationale. Nous, on y tient. Nous, on la défend. Nous, on aime notre métier. Les gamins, on est contents d'être avec eux. On est contents de les avoir retrouvés. Ce qu'on espère, c'est pouvoir, malgré la crise sanitaire, pouvoir continuer à travailler avec eux. Mais là, on nous fait faire n'importe quoi. Et il y a un moment où c'est trop. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est ici Henri Darras, mais à mon avis, ce ne sera pas qu'Henri Darras. Hein. Voilà.
Les murs du lycée appartiennent à la région, hein, la région Hauts-de-France. Et donc, ils sont propriétaires, ils sont tout puissants ici. Ils viennent, ils entrent, ils ne demandent pas l'autorisation, ils ne demandent pas à rencontrer les personnels. Et il y a des choses qui se passent ou qui ne se passent pas. Parce qu'ils décident de faire des travaux ici et de ne pas en faire là. Alors par exemple, alors il y a aussi une chose qui a fait déborder mon vase, hein, c'est quand j'ai vu le self, on avait un self professeur, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais qui a été démonté, on ne l'a même pas su. On avait une cantine un peu séparée. Bon, on démonte le self. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui mange à la cantine parce que c'est vraiment pas terrible ce qu'on mange à la cantine.
En plus.
Le résultat, c'est quand même que le nombre de demi-pensionnaires a été divisé par 2. Grosso modo, on est passé de 800 à 400 par jour. Hein. Et ça descend, ça continue à descendre. Mais d'un autre côté, on a un système, le SSI, système de sécurité incendie, qui est complètement défectueux. Qui est ici depuis les années 90, et la sécurité incendie, je pense que c'est important, oui, qui doit être remplacé depuis deux ans, il n'a toujours pas été remplacé.
Ça, c'est à la région de le faire.
La région est propriétaire de tout ce qu'il y a ici. Alors, le problème de la région, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'interlocuteur, on ne sait jamais à qui s'adresser, elle ne s'adresse jamais à nous, elle ne nous demande jamais notre avis, et nous, ça, on en a ras-le-bol. Donc, on demande solennellement à la région de venir à notre rencontre. Alors on aurait pu lui écrire à la région. Moi je l'ai fait par le passé. parce que nos fenêtres ont déjà été rénovées. Pendant des années, j'ai envoyé des lettres à la région pour les fenêtres. Elles ont été un peu réparées, mais très vite, tout a cédé. Donc on a des problèmes avec les fenêtres. C'est lié au problème du Covid, parce qu'il faut aérer les salles et que c'est compliqué. Il y a des fenêtres qui ne s'ouvrent plus ou qui ne se ferment plus ou qui s'ouvrent complètement. Et ça, c'est dangereux parce qu'on peut sauter par la fenêtre. C'est des fenêtres avec un blocage, avec un compas qui empêche l'ouverture complète. Et on va demander solennellement au proviseur aussi d'organiser une réunion, une table ronde avec la région. On veut pouvoir leur dire ce qu'on a à leur dire, dire ce qui ne va pas et qu'eux nous écoutent vraiment, quoi. Qu'il y ait un vrai dialogue avec la région.
C'est aussi des politiques nationales. Le gouvernement, ils ont décidé qu'il fallait que les écoles elles restent ouvertes à tout prix pour que le pays et que l'économie elle, puisse fonctionner. Donc, on fait semblant qu'il ne se passe rien dans les écoles. Et puis, on va embêter les gens, effectivement, dans les restaurants, mais pas dans les écoles. Enfin, nous, on a un foyer socio-éducatif, par exemple. C'est, je sais pas, il y a 3 ou 4 fois plus de monde que dans un bar, hein. Ouais, à certaines heures. Hein. Les élèves, ils sont les uns sur les autres. Il y a du baby-foot et tout ça. Voilà, là, on fait comme si... c'est pas grave, il ne se passe rien, quoi. Donc je pense que non, il y a une volonté de considérer que dans les écoles il se passe rien. Ils comptent sur les vacances scolaires. Enfin les chiffres, c'est les chiffres du rectorat qu'on a. Les chiffres, ils montrent qu'il y a une reprise forte de l'épidémie dans le milieu scolaire. Et là, en fait, le gouvernement il compte sur les vacances de la Toussaint pour essayer de calmer un peu l'épidémie dans ces milieux-là. Puis ils espèrent, sûrement qu'en novembre. Ils pourront repartir avec un point bas et puis tenir encore jusqu'aux vacances de décembre. Mais c'est un gros pari qu'ils font. Voilà. Alors je pense que Blanquer, il doit serrer les doigts très très fort, hein, en espérant que finalement ça se passe à peu près bien. Mais il y a un vrai risque qu'on fait prendre alors, aux élèves, aux enseignants, puis à la population en général, parce que c'est évident que là, les établissements scolaires, ils font circuler le virus.
Là, les collègues ont décidé demain de débrayer, puis on va aller en délégation voir la direction. La direction ne nous a pas répondu. Hein. On n'a pas eu de réponse. On a eu des réactions quand même, parce qu'on a une proposition de conseil pédagogique après les vacances. Mais on aurait bien aimé en avoir une avant. Ici, il y a deux lycées. Hein. Il y a le lycée professionnel et le lycée d'enseignement général.
Alors, le ras-le-bol, moi, je pense que le ras-le-bol dans les lycées, je pense qu'il est maintenant, il est un peu ancien. Il a 2-3 ans. Quand le ministre est arrivé avec la réforme, les réformes du lycée, hein, Parcoursup pour l'orientation, la réforme de l'examen, la réforme du bac en contrôle continu, et puis les réformes des programmes et puis des spécialités. Voilà. On a des réformes qui s'appliquent, c'est toujours le même problème, hein, sans tenir compte du terrain, sans demander l'avis des enseignants, mais même pas sans demander l'avis même des élèves. Hein, on a des grands discours du ministre comme quoi les élèves ils sont très contents du nouveau système. Je ne sais pas s'il est allé voir des élèves pour leur demander. Donc il y avait un mécontentement qui était là, il y a eu la réforme des retraites. Hein. On a quand même eu une journée, 2 jours ici où le lycée il a quasiment pas fonctionné parce que. Voilà. Alors tout ça a été arrêté, stoppé net avec le Covid, le mécontentement, l'expression du mécontentement. On a l'impression qu'en septembre, on reprend l'année, mais au même niveau de délabrement qu'en mars, mais avec des contraintes en plus. Hein. Et ça peut pas fonctionner. Donc effectivement, ça craque. Alors là, c'est presque pour l'anecdote, hein, mais c'est parti effectivement d'un mail qui a été envoyé par la direction pour nous inviter à faire des formations sur notre temps personnel, derrière notre petit ordinateur, pour apprendre à faire de la continuité pédagogique. Soit dit en passant, comme si nous, on n'avait pas su faire de continuité pédagogique entre mars et juin. Alors, on a dû se débrouiller tout seul. Donc ce mail-là, il a été perçu par plein de collègues comme la provocation de trop. Alors je pense que de la part de la direction, il n'y avait même pas une volonté de provoquer. Hein. Ils ont fait le truc parce que c'est normal, quoi. Ils rebasculent un mail de l'institution. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point le terrain est complètement exaspéré. Donc cette fameuse journée, c'était la journée où effectivement il y a eu une incivilité de trop au lycée, avec un élève qui a étalé ses excréments sur les toilettes. Donc là, le week-end, les collègues, ils ont répondu chacun individuellement au proviseur en lui disant que son mail sur la continuité, les formations pour la continuité pédagogique, on n'en avait un peu rien à faire. Hein. Et puis les collègues, ils ont raconté concrètement ce qu'ils vivaient. Voilà, c'est toutes ces petites gouttes d'eau qui je pense, font déborder le vase. Mais bon, de toute façon, ce qui se passe ici, Henri d'Arras, ça se passe dans des tas d'autres établissements. Et puis, il suffit de voir les reportages sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Les infirmières qui avaient été super à bloc, super courageuses pour affronter le virus et tout, six mois après, elles s'aperçoivent qu'il n'y a rien qui a changé dans les hôpitaux. Que ça a été que des paroles. Et puis, le service public, là aussi, on le laisse un petit peu tomber. C'est de l'exaspération, c'est de la colère et de l'exaspération.
Ce vendredi 16 octobre à 10h, 60 professeurs ont débrayé. La direction de l'établissement a finalement consenti à échanger avec elle et eux pendant 2h30. Ils et elles ont discuté de gel hydroalcoolique, de la cantine, et ont demandé aux proviseurs d'organiser une table ronde et d'y convier un ou une élue de la région, un ou une technicienne de la région, ainsi que le maire de Liévin, pour discuter de tous ces points, entre autres.
Lycée Henri d'Arras de Liévin, donc à suivre. Hein, on va s'efforcer de voir un peu quelles sont les suites concrètes qui vont être données à ce premier rassemblement et à cette première réunion. On vous tiendra au courant. Deuxième reportage, un reportage plutôt social et culturel, je dirais. C'est un reportage au Ciné Sandwich de Grenay, salle Ronny Cooter.
Comme chaque premier mercredi du mois, l'espace culturel Ronny Cooter de Grenay nous propose une soirée Ciné Sandwich. Nous avons déjà eu l'occasion d'en présenter le principe. Un accueil, vous faites votre sandwich, quelques pistes de réflexion lancées par un intervenant, puis projection et débat. Ce mercredi 7 octobre, c'est le film « Imagine, demain on gagne » qui est projeté et le débat porte donc sur la thématique des mouvements sociaux. « Imagine, demain on gagne », c'est un documentaire autour des Gilets jaunes de Saint-Nazaire. À l'occasion de ce ciné-sandwich, l'un des deux co-réalisateurs, François Langlais, est présent pour enrichir le débat avec les spectatrices et spectateurs. Nous lui tendons notre micro. François, dans ton film, il y a un aspect quand même assez spécifique concernant le mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait qu'il y a cette MDP, cette Maison du Peuple, avec un très fort aspect autogestion, auto-organisation, autoconstruction de la lutte. Est-ce que ça faisait partie de ton projet initial ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit et comment c'est arrivé ?
Je dirais que ça est arrivé de par... à la caractéristique des gilets jaunes de la Maison du Peuple même, c'est-à-dire qu'on a découvert ça en arrivant à la Maison du Peuple, et c'est leur façon de s'organiser, et du coup, nous, on l'a documenté. C'est sûr que ça a peut-être influé dans notre choix de les choisir eux, parce qu'on trouvait que c'était vraiment singulier la façon dont ils s'organisaient pour des gens qui n'avaient pas forcément de passif d'engagement politique par le passé pour certains d'entre eux. Mais en tout cas, je dirais que c'est vraiment une des caractéristiques, l'autogestion dans la lutte de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Quoi. C'est vraiment eux qui l'ont décidé comme ça depuis le départ.
Et toi, c'est une thématique qui t'était étrangère ou au contraire que tu souhaitais aborder ?
Disons que moi c'est une thématique que j'ai eu l'occasion d'expérimenter personnellement, notamment pendant la loi travail à Rennes, on a ouvert une maison du peuple à Rennes également, moi j'ai fait partie des gens qui sont passés là-bas, du coup l'autogestion c'est quelque chose que je connaissais déjà, et c'est sûr que... Il donnait une visibilité. Moi, je trouve ça intéressant. En fait, tout, je dirais que tout ce qui concerne l'organisation politique par les gens eux-mêmes, depuis la base, sans forcément passer par la représentation, c'est un sujet de recherche qui m'intéresse. Comment on peut faire de la politique au quotidien et par quel biais ça passe, que ce soit l'autogestion, etc. Est-ce qu'on a besoin de gens pour nous représenter ou est-ce qu'on peut s'organiser nous-mêmes? Donc oui, je dirais que c'est un sujet de recherche qui m'intéresse.
Alors, il y a un autre sujet qui est assez fort dans le film, c'est en quoi est-ce que des actions collectives, une lutte collective, des rassemblements collectifs transforment des individualités? Alors, évidemment, il faut voir le film pour le percevoir, mais qu'est-ce que tu peux en dire quand même?
Ben moi, je pense que clairement, mon postulat de départ, c'est que ça bouleverse les individualités, ce genre de temps fort social, politique, et surtout les liens humains qu'en découle, l'organisation. Tu parlais d'autogestion tout à l'heure. Je pense que cette espèce de puissance du collectif, de se découvrir qu'ensemble, on peut faire plein de choses, on peut s'organiser, les liens, l'assurance, l'expérience qu'en découle. C'est sûr que c'est quelque chose qui bouleverse des vies, et moi avec ce film j'espérais trouver quelque chose comme ça. Même nous, ce qui nous intéressait c'était de voir si ce mouvement créerait oui ou non un point de non-retour dans leur vie, dans leur quotidien, et je pense pouvoir dire sans trop me tromper que dans beaucoup des existences des gens qu'on croisait nos chemins, il y a un point de non-retour, il y aura un avant et un après gilet jaune dans leur vie. Ouais.
Alors à propos d'organisation collective, il y a dans le film l'ADA, l'Assemblée des Assemblées, donc il y a eu la première Assemblée des Assemblées à Commercy, la deuxième c'était à Saint-Nazaire. C'est aussi une sacrée expérience d'organisation à grande échelle, finalement. Est-ce que, selon toi, ça peut préfigurer, d'une certaine manière, une certaine forme d'organisation locale, régionale, nationale?
Alors moi, je suis pas très à l'aise pour parler de l'Assemblée des Assemblées, parce que j'ai juste suivi celle de Saint-Nazaire, et à l'intérieur de l'Assemblée des Assemblées, en plus, on suivait nos personnages. C'est pas un processus... sur lequel j'ai beaucoup lu, sur lequel je me suis beaucoup renseigné. En tout cas, je pense que de la part des Gilets jaunes, effectivement, c'est une tentative de créer des instances, des procédés, etc., qui pourraient, pourquoi pas, se substituer à des organes représentatifs, décisionnels au niveau local, régional, mais je me sens vraiment pas à l'aise pour en parler, vu que j'ai pas suivi le processus dans son intégralité et que c'est un processus long qui a continué plusieurs fois après et que j'ai pas suivi du tout la fin. Quoi.
Une dernière question, pas directement liée au film. Hein. Bon, en ce moment, il y a énormément de charrettes de licenciement. Et ici, dans le Bassin-Mini, on a Bridgestone qui a un retentissement national. En gros, la classe capitaliste, elle mène la guerre sociale. Quelle résonance avec le mouvement des Gilets jaunes?
Je pense que les Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est des gens qui ont vécu ce genre de schéma dans leur chair. Il suffit de voir dans notre film une personne qui a été licenciée de son travail parce qu'elle a eu une maladie, des troubles musculo-squelettiques à force de répéter les mêmes gestes. Du coup, je pense que beaucoup de Gilets jaunes, c'est des gens qui ont ressenti dans leur chair, qui ont ressenti économiquement ce que c'était d'être de la classe laborieuse, et que forcément, des licenciements, c'est quelque chose que comprennent beaucoup de Gilets jaunes, et même, je suppose, beaucoup d'entre eux ont expérimenté ce genre de cas. Juste pour ajouter, c'est juste, moi j'ai aucun problème à dire ce que je pense de tout ça ou ce que par rapport aux Gilets jaunes, ce que j'ai rencontré, la vie que j'en ai, mais je suis pas un représentant des Gilets jaunes, et puis je pense que les groupes de Gilets jaunes, chaque groupe parle que pour lui-même, donc c'est toujours un peu délicat de parler au nom des Gilets jaunes ou des Gilets jaunes en général, quoi. Je dirais que je parle que pour moi-même, je donne mon avis. Et parfois, je parle de ce que j'ai vu avec les Gilets jaunes de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, mais c'est tout ce que je peux faire.
Entre les Amish et le transhumain, entre la lampe à huile et le maillot de bain connecté qui vous dit quand vous retournez pour ne pas cuire au soleil, il existe des alternatives. Le progrès technique n'est pas une fin en soi, et lorsqu'il nous est imposé en dépit des catastrophes écologiques et des drames humains qu'il charrie, il pose des problèmes de démocratie et de choix de société. Nicolas Bérard, journaliste, enquête depuis plusieurs années sur les questions de l'énergie, des ondes et de la Smart City. Il a récemment publié 5G Mon Amour, une enquête sur la face cachée des réseaux mobiles qui nous renseigne sur les risques sanitaires, écologiques, politiques que comporte le déploiement de la 5G. De passage dans la région, nous avons enregistré la conférence qu'il a donnée à Le Forêt.
Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je voulais déjà remercier Pierre, les associations, les collectifs, monsieur le maire qui nous accueille ici, parce que effectivement, comme ça vient d'être dit, en fait, il y a une vraie nécessité, à mon avis, de parler de la 5G. Et il y a un vrai déficit de démocratie qui est vraiment flagrant autour de ce projet. Parce que les questions, en fait, ne sont jamais posées. On constate déjà que c'est un projet qu'on nous annonce une fois qu'il est lancé, quasiment. Les citoyens n'ont jamais été informés clairement sur ce projet-là. Et aujourd'hui, quand on essaye de s'exprimer, de prendre la parole, on voit qu'on se heurte à un mur et qu'on nous explique qu'il n'y a pas de débat et que, comme disait Pierre, en gros, on n'arrête pas le progrès. Encore faudrait-il s'interroger sur ce que signifie le progrès. Alors pour montrer ça, on peut revenir sur un exemple flagrant, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place par Macron sous la pression des Gilets jaunes, des mouvements sociaux, etc. Donc il a créé cette Convention citoyenne pour le climat, à laquelle il a demandé de formuler 150 propositions en promettant que ces propositions-là seraient reprises, soit telles quelles, soit présentées à l'Assemblée sans filtre, soit soumises à référendum. Le jour où ces propositions ont été remises, il s'est accordé 3 jokers. Bon, ce qui était a priori pas prévu au départ, mais il a eu 3 jokers. Et aucun de ces 3 jokers n'a porté sur la proposition de la Convention qui était de faire un moratoire sur la 5G, le temps au moins de réaliser des études d'impact sanitaire et environnemental. Donc il ne proposait même pas d'annuler le déploiement de la 5G, il demandait juste du répit, du temps pour pouvoir savoir quels impacts aurait ce projet-là. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron, devant un parterre d'entrepreneurs de la French Tech, a expliqué que de toute façon, la 5G se ferait et qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. C'est à cette occasion qu'il a assimilé les opposants à la 5G à des Amish. Soit dit en passant, pour moi, être un Amish, c'est pas une insulte, même si je suis pas un Amish, mais passons. Qu'il a assimilé donc les opposants à des Amish en disant que c'était soit la 5G, soit le retour à la lampe à huile. Et ça, c'est aussi symptomatique de quelque chose, c'est-à-dire que le message qu'il essaye de faire passer, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est que c'est la 5G ou rien. Et ça pose un vrai problème, là encore d'ordre démocratique, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre à proposer. Pour lui, le progrès passe nécessairement par ce grand projet industriel. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur la 5G. Et cette 5G, elle pose divers problèmes. On peut penser qu'un seul de ces problèmes pourrait suffire à mettre le frein sur le déploiement de ce réseau, mais il en pose plusieurs. Et on va essayer de les examiner un peu. Le but, c'est que je prévois à peu près une demi-heure pour qu'après, on puisse échanger sur différents sujets et revenir sur certains sujets sur lesquels on peut approfondir. Donc c'est les problèmes que pose la 5G, ils sont, à mon avis, de plusieurs ordres, d'ordre sanitaire, d'ordre social, écologique et d'organisation de la société, de savoir dans quelle société on veut vivre demain. Parce que la 5G n'est pas seulement un réseau téléphonique de plus, c'est toute la société qui doit se réorganiser autour de ce réseau et on va vers une société de l'hyperconnexion où tout doit être connecté à tout, pas seulement les smartphones, mais tout ce qui nous entoure, donc ça passe par les réseaux d'énergie, on l'a vu avec le compteur Linky pour l'électricité, Gaspar pour le gaz, les réseaux de transport, mais aussi l'ensemble des objets qui nous entourent. Il y a une société qui s'appelle la société Violet, qui est une société française, qui expliquait en 2012 avoir recensé l'ensemble des objets qu'ils trouvaient dans une habitation. Et ils avaient comptabilisé 6000 objets. Donc ils avaient vraiment tout compté, le frigo, mais aussi les paires de chaussettes, la brosse à dents, tout. Et en 2012, donc, ils disaient qu'il n'y avait que 3 objets qui étaient connectés, la télé, le téléphone et l'ordinateur. Et la conclusion de cette société, c'était de dire il en reste 5997 à connecter. Donc ça pouvait paraître fou en 2012, mais aujourd'hui, on est en train d'assister à l'avènement de ce modèle-là. Aujourd'hui, on trouve des couches connectées, des maillots de bain connectés, des frigos connectés, des lunettes connectées, et petit à petit, on voit tous ces objets apparaître dans notre environnement. Et donc, pour faire communiquer tous ces objets, les réseaux actuels n'étaient pas suffisants, d'où la nécessité pour les promoteurs de ce modèle-là de mettre en place la 5G.
Voilà, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet très épineux qu'est la 5G, vous pouvez soit aller écouter le reste de cette conférence de Nicolas Bérard sur le site de Micro Rebelle, soit aller lire le livre de Nicolas Bérard, 5G, mon amour, paru aux passagers clandestins, et aussi L'âge de fer. Voilà, une co-édition. On se quitte là-dessus. À très très bientôt. Restez mobilisés. Ciao.